Voilà, bonsoir à chacune et à chacun. Et c'est vrai, on va regarder ce que la Bible nous dit ce soir. Le texte biblique sur lequel je m'appuie, ça va être dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Et on va voir une personne qui a répondu à l'Évangile, qui d'abord l'a entendu évidemment, et après qui a répondu, bien sûr. Magnifique, hein? Alors, mon message ce soir, mon thème, c'est Lydie, son cœur s'est ouvert. Son cœur s'est ouvert. Et on est bien le 11 octobre 2020. Lydie est une femme, et on va découvrir, ou pour certains redécouvrir, qui est cette femme et ce qui lui est arrivé dans sa vie. N'y voyez pas une pauvre dame toute rabougrie sur sa vie, mais c'était une femme d'affaires. Une businesswoman, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, la parole de Dieu mentionne cette femme comme une femme d'affaires, donc qui savait mener ses affaires et prospérer financièrement parlant. On va faire un voyage ce soir, n'est-ce pas? C'est assez joli, hein? On est transporté, cette fois pas en Israël, et en fait, le texte de Actes 16, on est transporté du Moyen-Orient à l'Europe. L'Europe qui n'existait pas sous notre forme actuelle, évidemment. Mais dans ce passage, en fait, l'Évangile, la bonne nouvelle, parvient en Europe. Et ça, c'est génial. Avant, dans les Actes, on voit que la bonne nouvelle est partie d'Israël, de Jérusalem, et après, elle s'exporte en Samarie, pas trop loin, et après, voilà, elle se répand, et l'auteur des Actes des Apôtres nous montre comment cette parole s'est répandue, la bonne parole, et qu'elle a pu atteindre des contrées. C'était éloigné à l'époque, puisque pour aller, on va voir, je vous ai mis une carte là, mais le voyage qu'ont fait les porteurs de cette bonne nouvelle, ça a mis 5 jours pour faire, quelques centaines de kilomètres, peut-être 300 kilomètres maximum. Donc ça a mis 5 jours, nos 300 kilomètres, c'est, voilà, on fait ça en, 4 heures, par autoroute, peut-être. Voilà, donc on va se transporter ce soir grâce au livre des Actes des Apôtres. Avant que je lise le texte, quelques points importants pour bien le comprendre. Il y a une équipe de 3, puis 4 missionnaires. J'aurais pu mettre mousquetaires, qui étaient 3 et 4. 4 hommes, il aurait pu y avoir des femmes, peu importe, mais il y a 4 hommes, Paul, Silas, Timothée et puis Luc. Donc j'ai mis 3, puis 4. On a leur nom. On ne sait pas comment ils étaient, mais on a leur spécificité ou leur qualité, certaines de leurs qualités. Paul, c'est un fonceur. C'est quelqu'un qui voit grand, c'est quelqu'un qui voit large. Il faut que l'Évangile arrive dans le monde entier. Vous le savez, la plupart d'entre vous. Silas, c'est quelqu'un qui, une fois que Paul est passé, est capable d'encourager avec des paroles personnelles. C'est un prophète. C'est quelqu'un qui cible les gens et qui leur donne des paroles comme ça qui vont les booster et les encourager. Ça, c'est Sylvain ou Silas. C'est la même chose. Ensuite, on a un Timothée. Timothée, c'est l'apprenti. Mais son nom nous dit quelque chose. Son nom, il a été appelé par sa maman, par ses parents, celui qui adore Dieu. Timothée, c'est un adorateur. Il va devenir pasteur ensuite d'une des plus grandes églises de l'Antiquité, celle d'Éphèse. Mais il a été chapeauté, coaché par Paul et par ceux qui étaient autour de l'apôtre Paul. Il est jeune, c'est le plus jeune des 4. Et le dernier, donc, c'est Luc. Lui, c'est le médecin et il a un cœur de berger. Et il est précis. Je ne sais pas s'il était chirurgien, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand il écrit les Actes des Apôtres, c'est très proche des gens. Il a un cœur comme ça, il aime les gens. Et puis, il est précis dans ce qu'il écrit et dans les termes qu'il emploie. Voilà l'équipe de 4. Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour ces 4-là, ils sont dans une période de naissance de l'Église. Et les premières années de l'Église, les premières dizaines d'années, ça va vite. Ça va vite. L'Église répand l'Évangile. Ça part de Jérusalem, encore une fois, et puis ça se disperse comme ça. Il n'y a pas que des apôtres qui dispersent la parole de Dieu, mais il y a vous, il y a moi, il y a les uns, les autres, il y a les premiers croyants qui ont vécu quelque chose avec le Seigneur, et ce qu'ils ont vécu, ils l'apportent. Et ça doit bouillonner en eux. Est-ce que ça bouillonne en vous ? le désir d'annoncer le message de la bonne nouvelle. Ce message, c'est ce que vous avez vécu, c'est ce que vous vivez avec le Seigneur. Alors ça bouillonne parce que l'Esprit de Dieu met le feu dans les cœurs et dans nos cœurs, je l'espère. Alors, c'est une croissance de l'Église et des Églises. Ben oui, il y a l'Église universelle et puis il y a les Églises locales, régionales qui sont là, qui font le job. C'est des croyants qui se rassemblent, qui rencontrent Dieu et tout de suite, on loue Dieu, on adore Dieu, on le prie, on répand l'Évangile, on s'édifie par des lettres qui circulent entre chrétiens et on grandit avec Dieu, on disperse l'Évangile. Acte 16, verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Il y a une croissance de l'Église. Nous voulons voir la croissance de l'Église en Europe, en Suisse. Elle grandit, elle s'édifie, elle se développe. Et dans d'autres parties du monde, ça va plus vite. Donc il y a un temps de croissance comme ça. Puis au bout d'un moment, l'apôtre Paul et son équipe, ses quatre amis là, ils arrivent à un moment donné, ils veulent continuer d'annoncer l'Évangile dans des terres qui n'ont pas encore été évangélisées. Entre-temps, ils passent dans les églises, ils les encouragent, ils les édifient, mais ils arrivent à un moment donné où ça bute. Je ne sais pas si ça vous arrive dans votre vie, vous avez un projet, vous avez envie de faire quelque chose pour Dieu, puis à un moment donné, ça bute. On met tous les efforts qu'on veut, on prie, on y va, mais il y a quelque chose qui bloque. Et pour la fine équipe que nous avons là, les quatre, en fait, ils cherchent à dire, bon, ça bloque là, on va aller à un autre endroit, on verra bien. Et ils y vont sans trop réfléchir, l'Évangile bouillonne dans leur cœur, et à un moment donné, l'Esprit Saint les bloque. Paf, mur devant eux. Pourtant, il faut annoncer l'Évangile dans ces contrées. Il n'y a pas de chrétiens encore, il faut y aller. Il y a un message pour eux, ça bloque. Il y a encore un autre endroit. Le texte nous dit dans Acte 16, l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils n'ont pas la permission d'aller à un endroit. Soyons attentifs au Saint-Esprit. Les amis, on doit persévérer, mais pas s'entêter. Il y a une différence. On doit persévérer dans ce à quoi Dieu nous appelle, mais il ne faut pas s'entêter. Ça, c'est important. Je le dis, laissons-nous conduire par le cher Saint-Esprit. Alors, ils visitent les églises, ils veulent évangéliser, et à un moment donné, ça bloque, on tâtonne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la meilleure chose à faire, quand c'est comme ça, c'est de rien faire. Quand ça bloque, n'enfonçons pas des portes fermées, mais on se pose, et c'est ce qui se passe. Je ne sais pas quel jour de la semaine, mais l'équipe s'arrête, les quatre, et puis, à un moment donné, Paul, il a une vision. Donc, ça, j'en ai parlé, je vais un petit peu trop vite. Qu'est-ce qu'il voit dans cette vision? Un homme. Il est beau celui-là, il a les yeux bleus. On ne sait pas quel homme, mais il voit un homme en vision. Tout d'un coup, ça apparaît. Peut-être aujourd'hui, on dirait des hologrammes, je ne sais pas. Mais ça apparaît devant Paul, il a une vision. Il reconnaît cet homme. Il est typé, il le reconnaît. Ah, celui-là, c'est un Macédonien. Vous savez, les gens, à l'époque, ils ne bougeaient pas trop. Donc, ils étaient assez typés comme ça. Et dans sa vision, cet homme lui parle et lui lance un cri. « Au secours !» Viens chez nous, viens en Macédoine, viens à notre secours. C'est un cri du cœur, un cri, viens au secours, on a besoin de toi. Donc tout ça, c'est en vision. Paul voit ça, il raconte à ses trois amis, voilà ce que je viens de voir. Un homme qui m'apparaît et qui me dit, viens, c'est un Macédonien, viens et secours-nous, viens à notre secours. Waouh, alors là, c'est clair, hein, la vision est claire. Mais ils sont en équipe, et en équipe, ils réfléchissent, qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, un Macédonien, et il dit, viens notre secours. Bon, ils réfléchissent, ils prient. Conclusion, qu'est-ce que tu penses, Timothée? Pas d'idée. Et toi, Silas? Moi, peut-être que, vu que ça bloque ici, peut-être qu'il faut partir en Macédoine. En Europe? Mais t'es fou, c'est trop loin. Il y a plusieurs jours de navigation, qu'est-ce qu'on va faire? Puis, dans la discussion, ils sont convaincus, parce qu'il n'y a rien qui les retient finalement. Ils sont convaincus qu'il faut partir et partir donc dans notre Europe. Voilà le texte, lisons-le ensemble. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Vous n'avez pas le choix. Hein. Voilà ce qui se passe. Alors, petite carte pour qu'on voie un peu la situation. Donc, je dois avoir un laser. Ça, c'est le Moyen-Orient, enfin, on va dire la zone qui nous intéresse. Donc, l'Empire romain, on va dire ça en gros, comme ça, de l'époque. Ça marche, ça ? Voilà. Ici, le territoire israélite, Jérusalem doit être par là, plus ou moins. Donc, Paul rayonne, il se déplace avec son équipe, etc. Et le texte nous a dit qu'il commence à Troas, donc c'est la Turquie actuelle. On est ici, donc tout à l'ouest de la Turquie. Zoom un petit peu plus grand. Donc ils reçoivent là la vision. L'apôtre Paul, ils sont à Troas, au bord de la mer, tout va bien. Les autres pieds en éventail, plus ou moins. Et ils reçoivent la vision pour annoncer l'évangile. Toute cette région-là s'était bloquée. Il y avait à certains endroits des églises, mais d'autres, ils n'ont pas pu y aller. Vous avez compris. Et Luc décrit... Luc les rejoint ici et il décrit le périple qu'ils vont faire en bateau, Samothrace, Néapolis, et ils arrivent ensuite à Philippe, dans la ville qui est une colonie romaine. À peu près, on estime ici qu'ils ont mis 5 jours pour y aller. Voilà, ils arrivent à Philippe quelques jours, on ne sait pas ce qu'ils ont fait là, les quatre, mais ils sont restés dans la ville. Et après, le jour du sabbat, et ils sont allés en dehors de la ville, les villes étaient fermées à l'époque, vous savez, et après ils trouvent un lieu de prière et un lieu où il y a des femmes. Alors pourquoi ils cherchent un lieu de prière en dehors de Philippe ? Eh bien probablement que les Juifs qui habitaient à Philippe, les quelques Juifs, il n'y en avait pas beaucoup, eh bien ils se rendaient à l'extérieur de la ville, c'était pas bon d'être juif à l'époque, comme d'autres époques là, et probablement, on ne sait pas pourquoi, mais il n'y a pas d'hommes, mais il y a un groupe de femmes. Et il fallait une rivière, parce qu'à la rivière, on pouvait faire les ablutions. Donc Paul se dit, fidèle à son habitude, il faut que j'évangélise. Ah, d'abord les Juifs, je me souviens de ça, on va leur annoncer la bonne nouvelle. Et où est-ce qu'on se rend compte d'habitude dans les villes romaines, s'il n'y a pas de synagogue, c'est au bord des rivières. Voilà pourquoi. Et qu'est-ce qu'ils trouvent là ? Un Macédonien ? Rappelez-vous la vision, ça devait être un Macédonien. Seigneur t'a dit. Non, il trouve une femme, et même un groupe de femmes. Donc pas d'hommes, pas de Macédoniens, mais un groupe de femmes. Et ces femmes, en tout cas l'une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle une craignant Dieu. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas juif d'origine, mais qui trouve dans le judaïsme la révélation d'un Dieu vivant et vrai. Mais elle n'est pas juive, elle ne s'est pas convertie. C'est Corneille. Corneille n'était pas juif. La caractéristique de ces gens-là, d'après le texte biblique, c'est qu'ils ne sont pas sauvés, ils n'ont pas encore la vie éternelle, mais ils respectent Dieu. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont comme ça, qui respectent Dieu, qui pensent qu'il y a un Dieu. Est-ce que j'en faisais partie avant ? Je ne suis pas très sûr, pas vraiment. Je savais qu'il y avait un Dieu avant de découvrir le Seigneur Jésus-Christ, mais voilà, je ne peux pas dire que je le respectais vraiment. Mais en tout cas, cette femme-là, Lydie, et celles qui sont avec elle, probablement, elles respectent Dieu. Donc, ça s'appelle les craignants Dieu de l'époque. Parmi ces craignants Dieu, plusieurs se sont convertis parce qu'ils avaient envie de Dieu, ils avaient soif de lui et ils voulaient entendre, ils étaient prêts pour entendre l'évangile. Et pour nous, les quatre amis, là, posent leurs pieds en Europe. Et oui, on n'est plus en Asie, mais on est en Europe. Merci à eux, hein. Ils ont obéi, c'est grâce à eux qu'on est là ce soir. Je suis un petit raccourci, mais c'est presque ça. Et la question qu'on se pose, si on était au temps de l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit l'apôtre ? Comment il a fait pour annoncer l'évangile à cette femme ? On n'a pas ce qu'il a dit, mais on sait qu'il y a eu des résultats. Rappelez-vous, la vision, ils sont quatre. Il y a un seul qui annonce l'évangile, c'est Paul. Les trois autres sont là, ils écoutent, ils participent. Peut-être que Silas donne une parole prophétique à l'une d'entre elles. Peut-être que Timothée a un chant pour adorer Dieu. Peut-être que Luc prend des notes dans son livre en vue de nous retracer le récit d'aujourd'hui. Comment annoncer l'évangile ? C'est la question. Ce qu'on voit dans notre texte, et on va le lire maintenant, non, on va juste lire le verset, c'est l'omniprésence à leur côté du Saint-Esprit. Si tu veux servir le Seigneur, si tu veux faire ce qu'il te dit, cherche à connaître le Saint-Esprit, n'en fais pas l'économie. Pendant longtemps dans l'Église, on a fait fausse route. On s'est dit, ok, le Seigneur m'a sauvé, j'ai découvert son amour, son pardon, allons-y. On y va, on fait ce que les autres font, on fait pareil, et puis on verra bien, on espère que ça porte du fruit, et on n'est pas sûr du tout. Et on a fait les choses comme ça, par automatisme. Et le pire, c'est qu'on pensait donner gloire à Dieu comme ça. Seigneur, tu m'as dit d'annoncer l'évangile, tu m'as dit de faire cela, c'est dans ta parole, on y va. Mais Paul ne faisait pas comme ça. Il cherchait à écouter la voix du Saint-Esprit. Là, en l'occurrence, c'était peut-être facile pour lui, il y avait une vision. Il n'y a pas toujours des visions. Mais toujours l'Esprit de Dieu, il est là pour nous parler. Là où on en est, à notre travail, sur nos lieux de là où on habite, cherchons pas des grandes choses compliquées. Si vous avez une vision, tant mieux, mais écoutons la voix du Saint-Esprit. Et écoutons la voix du Saint-Esprit, même si elle est contraire à ce qu'on a envie de faire. Parfois, on mélange les deux. Ah, j'ai envie de faire ça, puis on pense que c'est le Saint-Esprit. Et parfois, il dit le contraire. Ils auraient voulu aller en Bithynie, rappelez-vous, hein. L'Esprit de Jésus n'a pas permis. Écoutons la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il te dit ? J'arrive pas à entendre. Apprends à écouter. Apprenons à écouter. Et apprenons à dire au Seigneur, Seigneur, quelle que soit ta réponse, je suis d'accord. T'avance. Peut-être ça ne me fera pas plaisir, Seigneur, mais persévère avec moi. Je veux faire ce qui est juste. Vous êtes d'accord d'aller dans ce sens-là ? D'écouter la voix du Saint-Esprit. Il est là, présent. Il veut parler à ton cœur, n'en doute pas, mais parfois notre cœur n'est peut-être pas tout à fait ouvert. Comment annoncer l'évangile ? Écouter l'Esprit de Dieu et travailler en équipe. Et ça, c'est génial. On les voit, les quatre. À un moment donné, ils seront plus que quatre. D'autres, des femmes vont se joindre. Voilà, ça varie, les équipes. Les équipes varient tout au long des actes et on le voit aussi dans les épîtres. Alors, travaillons en équipe. J'ai ce que tu n'as pas et tu as ce que je n'ai pas. On peut le dire à son voisin, ça, peut-être. Hein. J'ai ce que tu n'as pas et tu as ce que je n'ai pas. J'ai besoin de toi. Vous avez ce que je n'ai pas. J'ai besoin de travailler avec vous. Et l'inverse, la réciproque, est valable. D'accord ? Pas de chrétiens tout seuls. On n'en voit pas des chrétiens tout seuls dans les actes des apôtres. Enfin, je ne sais pas s'il y en a, peut-être... Je ne vois pas comme ça. J'avais fait un travail de recherche il y a quelques années en arrière où je m'étais mis, ok, je vais trouver toutes les personnes qui sont dans les actes des apôtres, qui sont chrétiennes et qui se mettent à servir Dieu. Il y a un nombre important. Et puis après, on regarde dans les épîtres ce qu'ils sont devenus, si c'est mentionné. C'est très intéressant. Et Romains 16, il y a tout un chapitre qui parle de gens comme ça. Il y a des Tryphos, Tryphès, des gens qui sont engagés dans le service de Dieu. Et puis Paul les salue, etc., des femmes, des hommes. Travailler en équipe. Après, la clé pour l'apôtre et les apôtres, les missionnaires, eh ben, c'est de savoir s'identifier. Sautez avec moi dans 1 Corinthiens 9. Tout 1 Corinthiens 9, c'est Paul qui se cite, enfin qui dit comment il fonctionne, comment il aime servir Dieu. Dans 1 Corinthiens 9, 16, et peut-être qu'on a oublié ça, alors il faut s'en rappeler. « Si j'annonce l'Évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté. » Autrement dit, je fais le job, j'annonce l'Évangile, voilà, je fais ce que Dieu me demande, tout simplement. Jésus va plus loin et dit « Soyez des serviteurs inutiles. Si vous faites ce qu'on vous demande, soyez des serviteurs inutiles, ça appelle à l'humilité. » car c'est une nécessité qui m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Donc il avait cette pression pour annoncer son message. « Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Servons le Seigneur avec joie. » Servons le Seigneur avec joie. Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans faire usage de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Waouh ! Il se livre, hein, là, l'apôtre. Il se livre, il dit, voilà comment je fais. Je vous montre mes dispositions de cœur. Il est très ouvert. Et puis un petit peu plus loin, verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme si j'étais sans la loi, etc. Au verset d'après, j'étais faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Est-ce qu'on se montre en disant waouh, moi j'ai du pouvoir, je vais te montrer? Ou d'autres disent, moi je suis comme toi, hein, j'ai juste une fois fait une rencontre particulière qui m'a transformé. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. On n'a pas tous la même vocation que l'apôtre, ça c'est une évidence, mais on a tous une vocation, tous, celle d'être appelé à être sauvé, sauvé du péché pour la vie éternelle, et appelé à servir dans ce à quoi Dieu nous a prévu et préparé. Peu importe ce que c'est, peu importe, dans une école, au travail, n'importe où, dans un ministère particulier, peu importe. Je fais cela à cause de l'Évangile. Savoir s'adapter. Les amis, ça c'est une clé. Ça c'est une clé. Si on sait s'adapter, ça montre qu'on aime les gens, tout simplement. Et c'est une clé. Essayer de comprendre l'autre. Essayer de se mettre au même niveau. Essayer simplement d'être comme lui. Certainement, l'apôtre, on voit plein d'exemples, avec les intellectuels, il l'était. Il avait un grand bagage. Et puis, avec des personnes peut-être moins cultivées, il l'était aussi, il le devenait. Il n'en mettait pas plein la vue. Se rappeler ce soir aussi que tout est grâce, ou tout est amour, tout est grâce. Et ça, c'est génial. Qui est Lydie ? J'en viens à la dernière partie de mon message ce soir. Lydie, c'est une femme qui a été évangélisée par l'apôtre. Il y a des fois un contraste, on se dit, mais quoi, saint Paul, c'était le pire des misogynes, il n'aimait pas les femmes, il n'y avait que les hommes, etc., point. Du reste, dans les églises, c'était les hommes qui enseignaient, point barre. Mauvaise lecture des Écritures, fouillons le texte. D'abord, il évangélise Lydie. Il ne le fait pas parce que Lydie est là, puis il aurait voulu des hommes, puis bon, tant qu'à faire, allons-y, ça nous fera un exercice d'évangélisation. Il évangélise une dame qui est aimée de Dieu. Comme toutes les dames. Faut-il rappeler que l'Évangile libère et ne met pas un joug ? Mesdames, l'Évangile libère. La chrétienté peut-être a fait fausse route des fois, ça c'est sûr, mais l'Évangile libère. Et dans cette région, l'Évangile a libéré un homme en premier ? Non, une dame, libérée du péché. Alors Paul est-il misogyne ? Non, il évangélise Lydie. Et puis, il y a une Damaris dans les Écritures. Rappelez-vous, c'est une femme. Il y a une Priscille qui travaille avec son mari, Aquilas. Il y a une Phoebé dans Romains 16. Il y a plein de femmes qui étaient dans le ministère. Peut-être je vais mettre une bombe ce soir, mais Lydie, c'est la première femme pasteur en Europe. Elle devient pasteur. On voit ça dans l'Épître aux Philippiens, comment ça se précise, et dans le texte des Actes des Apôtres. En fait, elle est femme d'affaires, elle devient pasteur parce qu'elle accueille dans sa maison la première église de l'Europe. Paul, à un moment donné, écrit, je ne sais plus, je n'ai pas la référence, on n'a peut-être pas non plus le temps, mais il écrit, et l'église qui est dans sa maison, les frères et sœurs qui sont dans sa maison, à propos de Lydie. Qui était la pasteur ? C'était elle. Génial, hein ? Paul était-il misogyne ? Absolument pas. Il voulait de l'ordre, bien sûr, dans les communautés. Il ne voulait pas que ce soit n'importe quoi, et c'est normal. Dieu est un Dieu de paix et d'ordre. Mais il annonce l'Évangile et il engage aussi des femmes comme des hommes. Il n'y a plus ni homme ni femme, écrit-il. Disparaissez. Galates 3, 28. Voilà ce que Paul pensait et croyait, parce qu'il l'avait vraiment comme une conviction de la part du Seigneur Jésus. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, vous êtes héritier conformément à la promesse. C'est pas ce verset. Je me suis trompé. Il n'y a plus... 28, oui c'est ça. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. N'ayons pas une trop haute opinion de certaines catégories de personnes. Ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. On a tous accès à la bonne nouvelle. Ça, c'était la conviction de l'apôtre. Il n'y a pas de sous-personne. Alors, peut-être vous allez me dire, ouais, mais pourquoi c'est marqué que les frères dans les épîtres? C'est juste qu'on ne voulait pas rallonger. Pourquoi rallonger pour rallonger? Alors voilà, on a fait de la réduction de termes, mais les sœurs sont autant incluses que les frères. Et ça, c'est l'Évangile qui a été grâce à la vie de Jésus-Christ. Alléluia! La clé, tout est grâce pour Lydie, tout est grâce pour chacun de nous, tout est grâce quand on évangélise, parce que le Seigneur lui ouvrit le cœur. Vous avez remarqué ce petit verset là? Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Paul aurait pu parler longuement, il était cultivé, mais si Lydie avait eu le cœur fermé, si elle n'avait pas écouté avec attention, elle ne se serait jamais tournée vers Dieu. Donc tout est grâce et c'est le Seigneur qui le fait. Si vous pouvez partager votre foi à quelqu'un, que la personne écoute, c'est une grâce. Si vous êtes dans un ministère quelconque, dans un service, c'est une grâce que Dieu vous fait. Vous ne faites pas une grâce au Seigneur. Hein, on est d'accord avec cela. Nous pouvons le servir avec les dons et les talents qu'il nous fait. Et combien il est important de s'ouvrir à cet amour et à cette grâce de Dieu. Elle a ouvert son cœur, cette fameuse Lydie. Tout est grâce. Elle a été attentive aux paroles de Paul et le Seigneur lui a ouvert le cœur. Comment est-ce qu'on devient chrétien? Ça commence par les oreilles, ou peut-être les yeux, je ne sais pas. Mon papa est devenu chrétien parce qu'il a vécu une guérison. Il y a eu un miracle instantané qui a été fait dans un temps de culte comme ce soir. Puis d'autres, ils sont attentifs. Ils lisent, ils se font leur propre opinion et ils reçoivent. Voilà, il n'y a pas de manière, il n'y a pas un mode opératoire qui serait toujours le même. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Alors, je vais donner la parole à Gilles. Merci de venir, Gilles. Voilà ce qui va se passer. On va prendre un temps d'appel et de prière maintenant et on va permettre au Saint-Esprit, si votre cœur est ouvert et le mien aussi, si nos cœurs sont ouverts, d'agir comme il le veut, comme il l'entend. Amen.
Voilà, bonjour à tous. Combien est-ce que vous avez entendu de sermons dans votre vie? Essayez de compter. Moi, je suis né en 2 pages de Bible, je ne peux pas vous dire combien de sermons j'ai entendus. Et puis, est-ce que vous avez mis en pratique ce que vous avez entendu? Tout le temps? Vous sentez bien, hein? Je mets l'ambiance maintenant. Combien de sermons j'ai entendus qui m'ont servi à rien? Parce que, voilà, j'entends, c'est cool, je fais 3 chants, et après, je rentre chez moi et je vis une autre vie. Et il y a un passage qui m'a parlé ces jours, c'est... En Corinthiens 4, 19, tu n'as pas besoin de le chercher. Attendez, c'est 4, 10. L'évangile ne conf... Attendez, le royaume de Dieu... Attendez, voilà. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. En puissance. Ça va, comme ça? Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et moi, j'ai entendu du blabla toute ma vie. Hein ? Vous, peut-être aussi. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on n'est pas content, bien souvent, avec nous-mêmes, parce que, ben, au fond, nous, en fait, on sait très bien qu'on triche. On célèbre Dieu par nos paroles, mais au fond de nous, ben, y a du caca. Ça, on le sait. On le confesse autant de fois et ça revient. Le soir, ça revient, ça revient, ça revient. Et c'est normal. Ça fait partie de notre travail, de nous donner vraiment... on ne va pas à l'église. On est l'église. Il est où le temple ? Eh bien, le temple, c'est ton corps. C'est ton corps. Qu'est-ce que tu en fais de ton corps ? Ton temple, c'est ton corps. Ça va ? Exactement. Et je vous propose que ce soir, si vous n'avez rien senti, si vous trouvez que c'était cool, ces paroles, mais tu reviendras chez toi, puis voilà, la vie continue. Et où il y a peut-être un truc qui manque. Tu sais que là, c'est pas cohérent entre ce que j'ai chanté, là, entre ce que je vis à l'intérieur, et puis ce que j'aimerais, mes aspirations. Que le Saint-Esprit, il faut qu'il prenne tout le temple. Il n'y a pas une zone, il n'y a pas une pièce dans ma maison où il y a du caca. Et j'y retourne parce que j'aime l'odeur du caca. Hein ? Donc, moi, je vous propose ce soir, parce qu'on a parlé de la progression de l'Évangile. C'est normal qu'on ne porte pas de fruits. Quand on ne sent pas très bon, vous savez, les gens ne viennent pas vers vous. Hein. Voilà. Et moi, je vous propose que ce soir, on redise à qui on est. Et on redise notre foi, on fasse notre vraie confession de foi. Et vous savez qu'on n'est pas tout seul. Hein. Quand on parle à Jésus, bah, c'est très bien dans notre tête. Mais autour de nous, et des fois aussi dedans, il y a des présences qui ne sont pas de Jésus. Eh bien, moi, je vous propose que ce soir, on les met dehors. Chrétien, pas chrétien, rien à faire. On se redonne. C'est-à-dire que mon corps est le temple du Saint-Esprit et il n'y a pas de zone qu'on va accepter qu'il y ait de la saleté. Alors, on va le faire en deux temps. Le premier temps, c'est une confession de foi vocale. C'est une prière que je vais vous demander, pour ceux qui veulent le faire, on va la réciter, en fait, on va la lire à l'écran. Ceux qui sont d'accord avec cette prière, prononcent cette prière. Et puis, dans un second temps, on va faire une étape suivante, ok ? Je ne vous dis pas tout de suite. Voilà la prière que je vous propose de faire. Si vous voulez bien la faire comme geste d'acceptation, ben on se lève pour prier peut-être devant notre Seigneur, on se lève, debout vaillant héros. Ben ouais, on va tout nettoyer. Et je vous propose qu'on fasse une prière où on se reconsacre. Voilà, ça va apparaître à l'écran et je vais pouvoir le lire. Et je vous propose de le dire vous-même à haute voix. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. C'est-à-dire, des fois même, je ne sais même pas ce que j'ai fait, mais j'ai mal fait. Voilà. J'accueille la grâce divine que Jésus-Christ m'accorde en vertu de son sang versé à la croix pour moi. Et j'obtiens son plein pardon. J'affirme que le sang de Jésus-Christ a été versé en rémission de tous mes péchés, passés et futurs, conscients et inconscients. En vertu de la grâce qu'il m'a acquise, de sa mort et de sa résurrection, je suis déclaré saint aux yeux de Dieu. Je suis adopté dans son royaume, admis dans sa présence. J'ai été inscrit dans son livre de vie. J'ai été créé par Dieu et pour Dieu, tissé dans des liens d'amour. Je fais partie de son peuple, racheté, et j'ai obtenu la vie éternelle. Je prends autorité dans le nom de Jésus et je place tout mon être, l'esprit, l'âme et le corps, sous la protection du sang de Jésus, ainsi que les biens qui me sont confiés. Étant sous la protection complète de Jésus et en vertu de l'autorité qu'il m'a donnée, je place également toute ma famille proche et lointaine, ainsi que ma famille par alliance, sous la protection du sang de Jésus, esprit, âme, corps et leurs biens. Je déclare que chacun d'eux a été créé par Dieu et pour Dieu, et que rien ne peut empêcher le Père qui les aime tous de ramener à lui toutes ses brebis dispersées. En vertu de mon appartenance à Jésus-Christ, je coupe tout lien avec Satan, l'ennemi de mon âme et de tout esprit malin qui a pu s'introduire ou m'influencer d'une façon ou d'une autre. Je dissous tous les contrats établis par mes ancêtres avec Satan et ses anges. Je coupe tous les liens transgénérationnels. J'interdis à tout esprit de se manifester, d'influencer mon comportement, de perturber mes relations. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit qui ne se soumet pas à la Seigneurie de quitter mon corps, mon âme, ma conscience, mon inconscient, mon subconscient, mes pensées, les lieux que j'habite et les liens qui me sont confiés. Je déclare qu'aucun malheur m'arrive, qu'aucun fléau n'approche de ma demeure, car Dieu ordonne à ses anges de veiller sur moi dans toutes mes voies. L'Éternel, mon Dieu, est avec moi. L'enchantement ne peut rien contre moi, ni la divination. L'Éternel change pour moi la malédiction en bénédiction, et je remporte la victoire sur le diable par le sang de Jésus, par la parole de la vérité que je proclame. Au nom de Jésus, je chasse tous les esprits mauvais envoyés contre moi pour me faire du mal. Esprits de séduction, de vice, de malédiction, d'aveuglement, de jalousie, de doute, d'incrédulité, de haine, de colère, d'angoisse, de dépression, de tristesse, esprits abattus, de persécution, de mise en cage, de mauvais sort, de mauvais œil, de religiosité, d'injustice, de moquerie, de manifestation, de chamanisme, esprit de mort, de suicide, de cultisme, de sorcellerie, esprit de vaudou, de magie noire, esprit de cartomancie, esprit de divination, de jalousie, je vous lie et je vous chasse au nom de Jésus. Allez dans la géhenne qui a été préparée pour Satan et pour ses anges. Et s'il s'agit d'esprits humains ou de leur influence, je te demande, Seigneur, de les éloigner de moi. J'invoque la présence de l'Esprit Saint et des anges. Que l'Esprit Saint vienne remplir de sa présence tout mon être et tous les lieux délivrés. Je prie également l'Esprit Saint de mettre en lumière toutes les zones d'ombre dans ma vie où j'ai laissé l'ennemi me nuire, me diriger ou m'aveugler. J'accueille l'Esprit Saint. Je l'invite à me révéler de quelle manière orienter mes pensées, mes projets, mes délires, pour que je puisse marcher sans détour sur un chemin d'amour, de vérité, de pardon et de sainteté. Que l'Esprit Saint façonne ma personnalité pour que ses fruits abondent dans ma vie. Amour, joie, paix, patience, foi, douceur, maîtrise de soi. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà une première étape. Et peut-être que maintenant, il y a des choses qui viennent dans vos pensées. Et je voulais parler du malaise qu'on peut avoir, de la maladie, ou de choses qui peuvent induire qu'en fait, on va pas bien, on va tricher avec nous-mêmes, parce que quelque part, il y a des zones d'ombre qu'on a laissées. Et la Bible nous invite pas seulement à écouter, mais à mettre en pratique sa parole. Et je vais vous mettre au défi. parce que c'est un truc que vous avez peut-être jamais fait dans votre vie. Et c'est pour ça que je vais proposer. Alors, Laurent a le secret de fonction, ainsi que Thérèse. Bien sûr, quand on parle à un pasteur, il n'est pas censé divulguer des secrets. Hein. J'aimerais vous citer le passage qui va venir à l'écran. Tu peux le lancer maintenant. Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Le fait d'avouer ses fautes, c'est un truc super dur. Moi, je sais que je vais aller vers Laurent, là. Il va aller là, dans un petit coin. Thérèse va aller là, dans un petit coin. Et Thérèse va s'occuper des femmes et Laurent va s'occuper des hommes. Alors, il ne faut pas raconter votre vie. Hein. En quelques secondes, ça suffira. Avec les distances, et j'espère qu'on mettra un petit fond musical pour couvrir tout ça. Et voilà, je vous propose que ce qui maintenant, vous voyez que c'est un truc qui empêche que le Saint-Esprit prenne toute la place, parce que vous avez laissé cacher, vous n'avez jamais osé dire à personne. Hein. Il y a des saletés qu'on n'ose jamais dire à personne, on a trop honte. Eh bien, je vous propose que vous ayez, on va dire, certains diraient les couilles, mais au moins le courage, cette fois, de vous lever et vous allez les dire soit à Laurent, soit à Thérèse, mais court, hein, parce que peut-être qu'on va tous passer. Donc ça risque d'être long. Et puis après, il prie pour vous, il vous bénit, et puis voilà, on est libre. Ok ? J'ai déjà prié pour la venue du Saint-Esprit maintenant. Esprit Saint, que tu nous visites, tu révèles en nous tous nos trucs qu'on n'a pas osé jamais dire, que c'était pas propre, tout sale, et qui t'a pas fait honneur. Seigneur, on veut les confesser devant toi. Moi, j'ai confessé plein de choses dans ma tête et je sais que tu m'as déjà guéri. Mais il y a des choses que peut-être il faut que je le dise à haute voix. Alors, je te remets ce soir, je te remets nos pensées actuellement et puis tous ceux qui doutent à se lever, disent « Purée, je me sens trop la honte de me lever parce que je ne veux pas montrer que je suis quelqu'un qui est pécheur. » Et puis, je n'ose surtout pas dire à quelqu'un ce que j'ai fait parce que j'ai trop honte. Mais Seigneur, je te prie que tu donnes la force à ces gens de se lever et puis d'entrer dans cette liberté des enfants de Dieu. On est tous pécheurs, on est tous pourris, on est tous condamnés à mort. Mais toi, tu as donné ton sang pour nous laver. Et nous prenons cela comme un cadeau. On n'a rien mérité, on n'est pas meilleur, on pourrait être des tueurs, des voleurs, c'est pareil, on est tous mauvais. Jésus, on veut te remettre toutes nos fautes et te prier, Saint-Esprit, que tu viennes couvrir toutes nos fautes et que ce soir, chaque personne ici qui a été d'accord de se redonner à toi, eh bien, elle ait une écoute du Saint-Esprit qui est renouvelée, qu'elle arrive à faire la distinction entre son cerveau qui fait des projets, l'ennemi qui essaye de les contrecarrer, et puis le Saint-Esprit qui dit encore autre chose. Nous te prions, Seigneur, pour une ouverture spirituelle, une réception, que la brebis entende la voix de son maître. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous te supplions, Seigneur, fais-toi entendre par ton Esprit Saint en nous, fais entendre ta voix à tes enfants. Et comme ça, on saura qu'est-ce qu'on doit faire tous les jours et à tout moment, avec la joie, l'amour et la paix dans le cœur. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen.
Dans la prière, tout à l'heure qu'on a prononcée, j'ai l'impression qu'il y a une personne ce soir qui, quand elle a prononcé ces mots, elle était vraiment en train d'étouffer, comme si elle avait des pics qui lui perçaient la gorge, là, puis vraiment, elle se sent oppressée. Alors ce soir, vraiment, ne pars pas comme ça, mais vraiment, viens à Jésus, dans cette confession, viens à Jésus et il va te libérer. Il te le promet ce soir.